RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Laura Barton-Martinez qui est sophrologue, Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée, et nous sommes avec Abel Bouilly, l'éducateur. Je propose maintenant d'accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est Fabien Antoniente qui est avec nous, Fabien Antoniente qui raconte sa vie dans Alors on n'attend pas Fabien, c'est le livre est aux éditions Stock. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Réalisateur de camping, de 3-0, de 4-0, de jet set, etc. Des grands succès populaires français de ces dernières années. Fabien, vous n'avez pas signé la tribune anti-Bolloré, pourquoi ?
D'abord parce que m'est pas parvenu, mais j'ai jamais de tribune moi. Donc puis je l'aurais pas signé parce que vous savez j'ai commencé mes courts-métrages dans les années, c'était les années 80, Mitterrand venait d'être élu au pouvoir, c'était les premières années de Canal et ils finançaient déjà les courts-métrages, ils m'ont financé pratiquement toute ma vie. Je vois pas en quoi c'est légitime pour les.
Vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui face à ce qui est dit au risque de fascisme?
Mais je trouve que d'abord, ils financent pas, hein, ce sont des préachats. Un préachat, c'est-à-dire que 6 mois après votre diffusion en salle, ils sont les premiers.
Ils achètent le droit de diffuser votre film avant les autres,
voilà, en quelque sorte. Tout. Voilà. Donc c'est pas, et donc ils financent toutes sortes de cinéma. Mmh. Toutes sortes de cinéma, c'est très large.
Mmh.
Donc,
ça va marcher.
Je vois pas vraiment pourquoi on leur voudrait, mais en plus, je cache pas que j'ai une amitié pour Maxime Saada, donc voilà.
Qui est le patron de Canal+, qui a répondu, qui visiblement était très énervé et qui disait, puisque je suis un crypto-fasciste, je travaillerai plus avec ces gens-là. Est-ce que ça a pas été un peu excessif comme réaction?
C'est-à-dire que c'est une manière de taper sur la table, je pense. Ce sera pas forcément à mon avis. Hein,
si il y aura pas de liste noire.
Non. Non, non, je pense que c'est pour dire on siffle la fin de la récré.
Donc il faut calmer le jeu.
Voilà, je pense qu'il faut calmer le jeu. Puis dans les 600, j'en connais pas tant que ça, moi.
Dans les 600, ils sont pas tous dans le cinéma, quoi, en fait. Oui, c'est un peu embêtant.
Je peux vous dire, ils ont trouvé les 600, mais moi, j'en connais pas beaucoup.
Ah oui.
J'ai regardé un peu, vite fait. Mais
vous dites vous-même, vous inscrivez dans une ligne de cinéma populaire, vous dites les pétitions, elles passent jamais par moi. Vous pensez qu'il y a deux cinémas aujourd'hui?
Moi, je vous parle de factuel, de façon factuelle. Je ne vois jamais des tribunes. Alors, je me dis, à chaque fois que je vois des noms de Juliette Binoche, tout ça, je me dis, c'est curieux. J'ai jamais été concerté pour.
C'est quoi? Il y a un cinéma qui vous ignore ou qui vous méprise?
Je sais pas. Je dois être dans un couloir de nage à part. Et ça me va. Hein.
Je crois
qu'il y a du tout. Il y a pas du tout de.
C'est ce que disait Coluche. Hein, Coluche, il disait, il y a le cinéma qui fait des entrées, le cinéma qui se refile des prix.
Ouais, c'est ça.
En résumé, quoi. Mais et qui vit d'ailleurs sur le dos du cinéma.
Moi, je fais partie du. Il y a ceux qui pensent à s'amuser, et ceux qui s'amusent à penser. Moi, je suis la première catégorie. Donc j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle même les premiers festivals de courts-métrages qui avaient lieu à Clermont, qui ont toujours lieu au festival de Clermont. J'étais un peu à part et je dérangeais personne. Ça s'amusait avec moi, mais voilà. D'abord, j'ai toujours voulu faire ce sport qui est la comédie.
Ouais, surtout que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Qui a toujours été un peu mis de côté quand même.
À une certaine époque.
Moins maintenant.
Maintenant moins.
C'est ce que vous dites aujourd'hui. La comédie s'est démocratisée. Vous dites beaucoup de producteurs se tournent vers ce genre, mais on ne fait pas de la comédie pour gagner de l'argent. Ah bon?
C'est-à-dire que si on pense à gagner de l'argent,
ça marche pas.
Ça marche pas. C'est pas comme ça. Je pense que dans tous les domaines.
Toujours.
Dès qu'on veut gagner, par exemple, c'est un chanteur qui veut faire un tube. Non, pas de tube. Donc il faut déjà être sincère. Dans sa façon de travailler, être impliqué, le faire comme un artisan. Et si normalement on fait tout bien, peut-être que le soleil s'éclaire.
Mais moi, ce que j'aime bien dans votre parcours, c'est le parcours de la méritocratie. On dit souvent qu'en France aujourd'hui, l'ascenseur social est cassé. Vous démontrez, vous, dans votre parcours, que ça peut quand même fonctionner. On peut être parti d'un HLM, de pas avoir ses parents dans le cinéma, de pas et finalement, d'arriver à être l'un des réalisateurs les plus connus et qui a le plus de succès. C'est ça qui est fort dans votre parcours et qui est peut-être aussi un exemple à donner à des jeunes qui auraient envie de faire du cinéma et qui se disent, mais moi, je connais personne, je suis pas à Paris.
Cinéma, c'est pour ça que comment je vais faire? C'est pour ça que je l'ai un peu fait, parce que je me dis, souvent, on me pose la question, comment faut-il faire? Et ben, d'abord, moi, je pense qu'il faut aller écouter battre son cœur et aller vers la fantaisie. Et à la finale, si on pense que l'aventure est dangereuse, il faut savoir que la routine est mortelle. Donc moi, j'ai choisi l'aventure un peu plus dangereuse.
Et qu'est-ce qui a été le
déclic? Ce qui était dangereux, c'est-à-dire qu'on part avec incertitude, parce que mon père ne voulait pas du tout que je fasse ça. Mm-hmm. J'avais fait des études d'optique assez poussées. Oui. Alors ça a un vague rapport avec les instruments de précision, les focales et tout ça, mais j'ai fait ça pour faire plaisir à mon père. Et puis après, j'ai même été bosser pendant 6 mois au commissariat à l'énergie atomique, pour lui faire plaisir.
À Saclay.
Mm-hmm. Et séparation isotopique de l'uranium 235-238.
Il faut vous envoyer en Iran, Fabien, là, justement.
Vérifier le stock d'uranium.
Et là, les badges, la routine, la répétitivité des choses. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai choisi de partir au cinéma, ce que j'avais profondément envie. Ma mère m'a un petit peu couvert. Et puis voilà, les chambres de bonne, ce qu'on appelle la période des vaches enragées. En l'occurrence, le thon à la catalane, parce qu'elle me livrait des boîtes de thon à la catalane, et un jour, au milieu de ces boîtes de thon, eh bien, il y avait des cahiers, et alors, je sais pas pourquoi elle avait mis ces cahiers, c'était des cahiers qui appartenaient à mon père, et à l'intérieur de ces cahiers, il y avait des plans de cinéma, en fait, il prenait des cours par correspondance pour faire du cinéma. Comme quoi, la vie, elle est toujours plus surprenante que l'on croit.
Petite question ou réflexion après avoir lu le livre, le cinéma
est venu à votre rencontre avant, parce que vous parlez du tournage des Demoiselles de Rochefort, vous séchez même les cours, votre chaussette.
Oui, la morale, c'est acheter des chaussettes rouges.
Votre chaussette.
C'est pas les Demoiselles de Rochefort, c'est un film de Michel Audiard qui s'appelle Elle cause plus, elle flingue.
D'accord.
Où effectivement, parce que nous, on avait une cité HLM. En étant dans une cité HLM, il y avait une voie ferrée qui passait dans près de chez nous. Elle passait tellement près de chez nous que j'avais l'impression qu'on était une famille de garde-barrière. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il y avait des bidonvilles où vivaient des Portugais, une grosse communauté portugaise qui économisait pour un jour s'acheter la maison de leur rêve. Et un jour, voilà, dans ce bidonville, je vois apparaître, comme dans les Demoiselles de Rochefort, un barnum. et là des camions avec Michel Audiard, Bernard Blier, Annie Girardot et tous les acteurs qui étaient un peu à la mode, et une bande de d'acteurs sympas, et j'allais de plus en plus voir le tournage, moins en moins à l'école. Mm-hmm. Puis un jour, voilà, il y avait une scène où Jean Carmet tend sa chaussette à un personnage qui était censé être Jésus et lui dit, vous avez oublié ça cette nuit, la chaussette était grise. Donc Audiard est embêté, il vient vers moi, il me dit, gamin, est-ce qu'on pourrait prendre ta chaussette? J'avais des chaussettes rouges, et donc je tends ma chaussette, moteur, clap, action. Il se trouve que la chaussette était trop petite et faisait éclat de rire général. Je faisais du 32, donc tout le monde était marre. Audiard revient me voir, il me dit, hey, gamin, la chaussette, elle va pas faire l'affaire, mais tu pourras rester avec nous. Et je suis resté sur ce tournage.
Mais voilà. Je voulais vous dire, Vous avez eu Cabel est noir. Vous l'avez remarqué.
Tu viens de m'apercevoir.
Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas pour rien, parce que vous racontez cette anecdote dans votre livre en parlant de camping. Il dit, vous dites mon humour est un doux mélange entre comédie et émotion où on peut tous s'autoriser. Dans Camping 3, Patrick a toutes les peines du monde à apercevoir Robert, un jeune Camerounais dans l'obscurité. Désolé Robert, je ne t'avais pas vu. Désormais, c'est moins facile de blaguer sur ces sujets. Est-ce que vraiment, on peut plus blaguer sur ces sujets aujourd'hui?
C'est touchy. C'est touchy parce que, bon, mais il y a aussi le savoir-faire de Franck. Parce que
Franck Dubosc,
quand il le fait, bon, il fait quelque chose comme ça. C'est pas très radiophonique, mais on voit ce jeune homme apparaître de l'obscurité. Je t'avais pas vu. Je trouve qu'aujourd'hui c'est plus compliqué parce que tout est étudié auparavant dans les maisons de prod. Ils lisent les scénarios. Ils disent mais alors là, ça va être embêtant. Et ah oui. Cela. Donc,
alors c'est pour ça que j'ai interpellé Abel pour savoir si justement lui ça te choque voilà. ou pas ce genre d'humour ou pas comme ça.
Non, pas du tout. Moi, je suis un. Vous savez que moi, je suis passionné de l'humour corrosif. Très corrosif même, donc moi ça me dérange pas. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit de la personne.
Fait.
Voilà. Mais malheureusement, on est dans une société où je pense que l'on peut rire de tout, mais plus avec tout le monde. Oui. C'est ça la problématique.
Donc, oui, ce genre mais de vanne,
si le mot n'est pas
autorisé, ce genre de vanne.
Mais non, mais Monsieur Pennenté n'est pas raciste. Ben, donc, moi, j'ai pas de problème avec
non,
cela.
Non,
puisque
vous savez, moi, je viens d'une banlieue. C'est pour ça que j'aime le football. Je viens d'une banlieue où on se mélangeait tous et on se chambrait. Le foot, c'est l'école du chambrage. Mm-hmm. On était, il y avait les Renois, on se mélangeait tous. Bon, moi, j'étais parfois, on me faisait rentrer, j'étais remplaçant, ceci, cela. Et c'était la vanne permanente. Donc, moi, je viens d'une école où on vanne, c'est comme ça.
Mais regrettez qu'aujourd'hui, on ait peur de la vanne, quoi, c'est ça?
Peur, ouais, oui. Parfois.
Mais c'est
mais en fait, en ayant peur de la vanne, on s'expose à plus de choses.
Voilà. Ah ouais. C'est là où j'allais en venir.
Faut y aller. Pour moi, faut y aller, puis quitte à prendre des risques. Mm-hmm. Parce que, l'humour, c'est mieux quand c'est drôle. Tout simplement.
on est
donc, c'est un gars qui marche sur une peau de banane. Il se fait mal, mais on peut rire. Ouais, c'est comme ça.
Et puis je trouve que pour moi ça aide à désacraliser tout ce truc-là et ça aide à re-rassembler les gens. Je veux dire, moi je fais partie de la population du monde qui est la plus discriminée. Je suis une femme et on prend cher en général dans les comédies. On est toujours soit l'intello moche, soit la bimbo un peu écervelée. Personne n'en meurt et c'est tout ça. Maintenant, moi ce que je trouve qui est dommage, c'est justement tout ce côté raillant que le cinéma dit classique d'auteur, de bien-pensant. Fait subir à la comédie française. Je veux dire, la comédie française, elle nous est enviée dans le monde entier. Les gens rachètent les scénarios de nos scénaristes. On nous rachète nos films tellement ils sont bons. Et moi, ça me fait de la peine. Là, je vois au Festival de Cannes, c'est un entre-soi. Je veux dire,
pas suffisamment de comédie.
Ils ont été quand même obligés de faire leur propre festival. En mémoire, le seul qui a vraiment eu sa place au Festival de Cannes en termes d'humour, c'est un petit truc en plus. Et pourquoi? Parce que pour le cinéma un peu bobo gaucho, oui, mais là, du coup, on met des handicapés. Alors, du coup, ça passe. C'est pas un truc populaire. Parce que, pardon, mais ils vivent quand même qu'entre eux. Et les trucs de populace, on se les carre et on va au Festival de Cannes.
C'est un paradoxe parce que c'est quand même les comédies françaises qui font vivre le cinéma français. C'est ce qui marche le mieux aussi dans les salles, depuis d'ailleurs toujours. C'est ça qui fait tourner le système. Hein. C'est le succès qui permet de produire des films plus difficiles. Et d'ailleurs, il est plutôt vertueux, ce système. Mais il y a toujours ce mépris
Je trouve que maintenant, il y a de moins en moins de mépris. Il y en a un qui a passé le guet, c'est Franck Dubosc.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Il a été accepté, Franck Dubosc.
Avec un ours dans le Jura, voilà, avec son film.
Il a passé le guet, puis en plus, il a
eu le César du meilleur scénario.
Le film a été très réussi.
Ouais.
Comme
Coluche avec Ciao Panté à l'époque.
Je vous entendais parler parce que Coluche, il avait une façon de présenter les choses, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le dénoncer. C'était son père. Mon père disait toujours les Noirs. Alors donc ça passait avec le père. Le père, il en a pris plein le dos. Hein. Ça dépend comment on présente le plat.
Bien sûr.
Mais par rapport à ce que disait Laurent, vous êtes déjà allé à Cannes ou pas?
Oui.
Et quand vous y êtes, vous vous sentez comment?
Je me sens toujours. J'y vais toujours en marche parce que je suis pas en compétition ni hors compétition. Mais bon, voilà, j'y vais. Les gens sont. Ça permet de faire quelques rendez-vous.
C'est aussi un marché, hein, faut rappeler.
Rendez-vous.
Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une comédie.
Mais il pourrait y avoir presque une comédie sur Cannes. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que à Cannes, c'est quand on observe, c'est balzacien. C'est un territoire fantastique pour raconter des histoires, parce que les gens sont toujours épuisés. Et quand ils vous voient. Quand il vous voit à Paris, il dit on se voit à Cannes, ce sera mieux. Puis quand il vous voit à Cannes, on se voit à Paris, on sera plus au calme. Ce qui fait qu'on se voit jamais en fait. C'est comme ça. Mais c'est cette comédie qu'il faut savoir aussi lire parce que les acteurs du cinéma sont assez drôles à regarder.
Mmh. Bon, alors.
À écouter aussi.
Alors, d'abord, on a une passion pour Robert Charlebois qui est commune. Donc, moi, c'était plutôt. Je t'aime comme un fou que j'adorais.
Ah, j'adore. Je t'aime comme un fou.
Et tout de suite, on y était là. Moi, j'étais en concert.
Il faut l'accent un peu. T'es un peu l'accent. Mais,
moi, je pense que c'est Fabien comme Francis Weber, comme Georges Lautner avec qui j'ai eu la chance de travailler. C'est des gens qu'il faut. Georges n'est plus là, mais ils sont précieux. Ils sont précieux parce que. Ils font ce qu'il y a de plus dur Parce qu'il y a plein de crétins qui pensent que faire du populaire, c'est facile et qu'il suffit de mettre des recettes. Alors, on met un peu de ci, on met un peu de ça, on va mettre, comme tu disais, une nana comme ci, comme ça, et ça va marcher. Non, pour faire du populaire, il faut un vrai talent. Mais ce problème, c'est que ce talent n'est pas reconnu. C'est très dur de faire rire les gens. C'est très, très dur. C'est très dur de leur faire oublier... de leur faire oublier leurs soucis, le temps d'un film. Et c'est très dur aussi qu'ils aient envie de revoir le film. Parce que une comédie, moi je ne vais pas parler d'un livre de toi, d'un film de toi, mais par exemple, Le Dîner de con, j'ai dû le voir 50 fois.
Ah,
50 fois,
je pense qu'on est sur les mêmes scores.
Voilà. Et les films de Fabien, ils ont beaucoup d'humilité. La seule prétention et la seule angoisse dans ces films, c'est que les gens se distraient. Et je trouve que c'est une noble prétention, une noble angoisse. Et à côté de ça, et une espèce de mépris. Je voulais savoir comment tu vis, toi, ce mépris du cinéma, alors que tu fais, tu es un acteur à part entière, et sûrement beaucoup plus d'autres qui sont subventionnés, un acteur à part entière, tu es quelqu'un qui amène les gens dans les salles de cinéma, donc qui développe le cinéma dans le pays, et pourtant tu es reconnu par personne, tu n'auras jamais une palme d'or, oh. Parce que, ben oui, mais c'est comme ça, parce que tu fais, tu as le gros défaut d'aimer les gens et de faire du populaire. Donc forcément, puisque ce que tu fais est populaire, forcément, tu n'as pas de talent.
Oui, c'est ça. Bon, vous savez, j'ai appris à vivre avec, comme apprivoiser. Hein. On apprivoise parfois le mépris comme on apprivoise un chien, mais j'ai une certaine volupté à être pris pour un imbécile, moi. Donc
pourquoi vous en tirez une la
non parce que je vois qui me traite d'imbécile. Vous voyez, je m'amuse aussi de tout ça. Par contre, c'est vrai que on se rend pas compte. C'est comme une chanson. C'est pas facile de faire une chanson qui reste, d'utiliser des mots simples. Parfois il y en a qui tartinent, comme on dit. Moi je préfère quand c'est sobre au bon moment. C'est un travail que les gens ne soupçonnent pas, mais et c'est la précision du travail de la comédie qui a.
Il n'y a pas de recette, c'est du talent.
Votre prochain film, il y a un film en tournage en ce moment, en préparation.
Je prépare un film, ouais, sur le thème des randos et surtout la détox digitale, parce que on est quand même un petit peu.
Donc c'est des gens qui partent en rando mais sans leur portable alors.
Qui essayent.
Ouais.
Et c'est pas évident parce qu'on est tous envahis par.
Le casting est prêt.
Non, on n'est pas encore en train de travailler. Ouais.
D'accord.
Juste. On va terminer quand même avec ça.
Alors,
on attend
pas Patrick.
C'est devenu une réplique dans le langage courant maintenant.
C'est culte.
Moi, je l'ai dit.
C'est vous qui l'aviez trouvé celle-là ou pas ?
Eh bien, c'est Franck qui l'a trouvé parce qu'en fait, à l'apéro, ce fameux apéro où on démarre les vacances, pastis partant bleu, pastis délicieux, tout le monde est là, il en manque un. Et donc, c'est là-dessus que Franck est arrivé en disant « Alors, on n'attend pas Patrick ?» Attention, Patrick, il faut bien le dire. Hein, c'est comme vient de dire Mourad. C'est, il faut deux ou trois cas pour que ce soit bien. Et ça fait Patrick.
Patrick.
Avec le mouvement de tête. Et puis, ça a été pris vite. Les enfants s'en sont vite emparés.
C'est ça, mais c'est pour ça
c'est les enfants qui ont fait aimer le film.
Il y a avec son gros homard. Ben moi, je pleure. La Ricorée. Mais j'en peux plus.
Et bingo.
Et là où il y a du talent, c'est que je suis certain que quand ils font cette réplique, ils n'ont pas idée qu'elle deviendra culte.
Pas bien sûr.
Exactement.
C'est là où il le talent.
C'est pas bon.
C'est vrai. Ça se commande pas.
Là où c'est pas, c'est parce que tu.
Par exemple, vous savez, j'apprends qu'aujourd'hui les gens quand ils veulent sortir et s'éclater, et ils disent, ça va être du grand Mendes. Et ce grand Mendes, quand on l'a écrit, nous, c'était un garagiste qui dit ça va être du grand Mendes. Mais maintenant, c'est rentré dans le langage populaire et on en est ravis parce que on est rentré dans l'histoire des gens.
En 2004, il n'y en aura jamais. Hein.
C'est difficile pour Franck de remettre le boulebite à un certain âge.
Lisez l'histoire de Fabien Antoniente, ouais, ça se déguste comme un bon film, bonne comédie populaire. Fabien Antoniente qui est passé voir les GG. Alors on n'attend pas Fabien du HLM au box-office, le livre est aux éditions Stock. Merci Fabien
merci de votre accueil.
Merci de passer par les GG. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules pour parler du Conseil constitutionnel censure la suppression des ZFE. Est-ce que c'est un déni de démocratie? À tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h25, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Avant de parler des ZFE, on a Julie qui est avec nous. Julie, bonjour. Bienvenue Julie, c'est vous qui avez été tiré au sort, qui avez envoyé liste par SMS au 732-16. Alors, vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale puisque vous allez peut-être remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde avec tous les cadeaux concernant la Coupe du Monde. Alors, ma chère Julie, on a les noms des 26 joueurs présélectionnés par, par Didier Deschamps. Alors, qui il reste? Il en reste il reste une dizaine, quinzaine de numéros. Donc, allez-y, je vous laisse me donner un numéro. 1, 2, 17, 8, 15, 18, 3... 22, 4, 5, 21, 23, 14, 6, 24 ou 7. Vous choisissez.
Allez, on va dire le 18.
Le 18, Anaïs.
Le 18. Où est-il?
Avant le 18.
Là.
C'est qui?
Zahir Emery.
Warren Zahir Emery, le joueur parisien.
Bon choix.
C'est ce qu'il voulait en plus, c'est parfait.
Alors, on perce la petite case.
On va regarder ce que vous avez gagné.
Bah, c'est pratique pour prendre le petit papier. Hop.
Qu'est-ce qu'elle a gagné alors, Julie?
Le pack Coupe du Monde, Julie. Un vidéoprojecteur Samsung, un maillot officiel de l'équipe de France, la boîte de Lego Coupe du Monde et le ballon officiel aussi de la Coupe du Monde 2026.
Vous allez pouvoir dribbler.
Bravo.
Ah bah, je suis très contente, merci beaucoup.
Ah, c'est presque la totale. Là.
Le vidéoprojecteur pour regarder les bleus bien. Et la Coupe du Monde.
Bravo,
sur
Julie.
Géant,
bravo,
le
Julie.
Maillot. Mmh. Bravo, félicitations Julie. C'est
allez,
pour vous.
Allez la France.
Mais je vous en prie, allez les bleus, bien évidemment. Et ça continue, vous pouvez continuer de vous inscrire en envoyant liste par SMS au 732-16 puisqu'on gagne jusqu'à la fin de ce mois de mai, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Liste par SMS au 732-16. Aujourd'hui encore, il y a les 10 000 euros à gagner. Allez, on y va. Maintenant, on va parler des ZFE. Je pensais pas que ça reviendrait, les ZFE. Mais en fait, si, je pensais que le dossier, l'affaire, l'histoire était réglée. Mais non, le Conseil constitutionnel s'en est mêlé.
Oui, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer la suppression de ces zones à faible émission, non pas sur le fond d'ailleurs de celle-ci, mais parce que le Conseil estime que les deux mesures qui étaient intégrées par les députés dans la loi de simplification étaient trop éloignées du texte initial. Donc c'est plus une censure, on va dire, technique. C'est la méthode qui n'allait pas. Oui. Ce qui c'est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que les ZFE, majoritairement, lorsqu'on interroge les Français, eh bien les Français sont contre. Pour 77% d'entre eux, c'est discriminant en fait, socialement, puisque effectivement on va pénaliser des Français qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de changer la voiture. Par exemple, quand on parle de ZFE à Paris, c'est pas le centre-ville, hein. C'est l'autoroute A86, la délimitation, c'est-à-dire c'est en dehors de Paris, c'est la banlieue. Donc c'est un peu la banlieue contre ceux qui ont les moyens d'habiter en centre-ville. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde l'Assemblée nationale, le RN est contre, la droite est contre les ZFE, la France insoumise également, pour des raisons de discrimination sociale. En revanche, le PS est pour et une partie du bloc central. Donc, est-ce que Monsieur Le Cornu aura le courage de remettre, puisque les Français visiblement n'en veulent plus, de remettre la question sur le tapis. Est-ce qu'il faudra attendre 2027, puisque certains candidats comme Bruno Retailleau ont dit si je suis élu, je les abrogerai.
Ben oui, mais le problème, c'est que les ZFE, c'est une préconisation de l'Europe.
Exactement.
Et que ben là, aujourd'hui, notre ami Richard Ferrand, simplement, il a sauvé quelques dizaines de milliards d'amendes pour l'État français parce que, je vous le répète, aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée nationale ou le président de la République, ce sont juste des exécutants de Ursula. Et donc, comme Ursula, elle veut des ZFE, il y aura des ZFE en France. Sinon, on se prendra une déculottée financière à travers des amendes en dizaines de milliards de dollars. On n'est plus maître de notre pays. D'où l'urgence de retrouver notre souveraineté à un moment.
Abel. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que la situation, elle est ubuesque. Et puis, ça permet à un hypothétique candidat, donc Bruno Retailleau, qui est d'ailleurs confirmé, de dire « Ah ben, si vous votez pour moi, je les supprimerai ». Bah, donc on est dans la bêtise jusqu'au bout. Donc le Conseil constitutionnel agit de façon stupide et tu as des candidats qui nous prennent pour des imbéciles. Donc puisqu'il promet de supprimer les ZFE, je vais voter pour eux. C'est un petit peu du n'importe quoi. Donc comme tu l'as dit, on parlait du Sénat qui servait à rien. Le Conseil constitutionnel, je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Donc en fait, les Français sont cadenassés. On vit dans une société où on a tellement tiers mondialisé notre mentalité qu'on accepte tout. Plus c'est gros, plus ça passe et ils n'ont même plus besoin de se cacher pour nous la mettre à l'envers.
Dans cette histoire, en plus, c'est technique, en fait, ce que dit le Conseil constitutionnel. C'est purement technique.
Oui, salaud de pauvre.
C'est le fameux c'est cavalier législatif. Oui, oui.
Donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le Conseil constitutionnel. C'est... En fait, il faut que les politiques aient le courage de remettre. Voilà. Il y a une proposition de loi qui peut être déposée à l'Assemblée là.
On reprend le dossier.
Et après, vous votez.
Mais enfin, je veux dire, on a le directeur européen. L'Europe nous a aidé sur des normes.
Non, simplement, c'est bloqué.
Il faudra rendre l'argent.
C'est bloqué par les macronistes parce qu'ils disent on ne va pas défaire tout ce que Macron a fait.
Le candidat qui est le plus acceptable à l'heure actuelle pour le gouvernement, c'est Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, qu'est-ce qui va lui permettre de basculer en étant au second tour ? C'est les socialistes. Voilà, point barre. On a le début, le milieu et la fin de l'histoire. Donc, encore une fois, on se rend compte que le pays est aux mains des socialistes, non pas par leurs compétences ou les voix les voix qui représentent du peuple, mais par rapport à la bascule qu'il peut y avoir dans l'hémicycle.
Oui, mais ça pose un problème parce que démocratique, c'est-à-dire s'il y a quand même une majorité de Français qui n'en veulent pas, je veux dire, là, on tente d'imposer quelque chose que les Français rejettent.
Oui, mais ça ne peut se résoudre que par deux voies, c'est-à-dire les élections présidentielles ou les élections législatives. Point barre. Et il ne se passe, mais même s'il y a la rue, il ne se passera rien il ne se passera rien jusqu'à 2027. Là, on serre les fesses.
Et
on attendra ce
qu'on passe. À l'Assemblée, il y a une majorité pour faire tomber.
Oui, mais l'Assemblée ne sert à rien. Nous appliquons des normes européennes, je vous le répète. Voilà, on ne vote plus pour un président.
Non, c'est une préconisation.
On vote pour un programme qui est décidé à Bruxelles.
Mais là, c'est pas
ça,
une loi.
C'est la réalité.
Tu peux passer outre puisque ce n'est pas une loi, c'est une préconisation. Donc, si t'as pas envie de l'appliquer, tu ne l'appliques pas. Point barre.
Alors, si tu prends des amendes de tous les. Après, c'est sûr que quand il y a la première armée d'Europe, les amendes, t'en as rien à cirer parce qu'à Bruxelles, ils ne règlent leur compte.
Pour l'instant, non.
Nous a appris Trump.
Non, les villes qui ont mis en place ces ZFE, il n'y a pas d'amende.
Non, mais la France, parce qu'on a touché des aides de l'Europe qui pourra rembourser plus
avec
des amendes.
Les vignettes.
C'est 3 milliards.
Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation.
Tu rembourseras les aides que l'Europe t'a données. Il faudra les rembourser plus les amendes.
Et puis surtout, pour un problème technique, donc qui était évitable, on accepte de reperdre du temps. De reprendre donc du temps de nos parlementaires, c'est-à-dire de dépenser encore de l'argent pour aboutir à quoi ? Là, les grandes vacances arrivent, la Coupe du Monde arrive, et ça se trouve, le projet, il va être remis à Matusalem. Donc, moi, je comprends pas comment ce pays fonctionne. Franchement, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je pense que beaucoup de Français, nous sommes dans cette situation. Après, on parle de la santé mentale. Moi, je vous dis, ça fait 10 ans de macronisme, et je veux pas faire d'accusation à l'emporte-pièce. Mais la dépression, et je pense qu'on va rentrer dans une période de nombre de suicides qui va être en explosion dans le pays.
Ah, mais vous verrez,
Emmanuel Macron. À cause de toute la classe politique, entre les entreprises qui ferment, entre la volonté des Français qui n'est pas écoutée. Regardez la crise. Là, le cornu, il arrive, il nous annonce, la crise va s'installer dans le temps. Ah bon, on le savait pas? On le dit depuis le début. Depuis le début, on dit que l'essence ne redescendra pas en dessous de 2 euros. Et ils arrivent. Mais franchement, ils nous prennent pour des imbéciles. Et ce qui est fatigant, c'est qu'en réalité, on est impuissant. On aimerait descendre dans la rue. Mais on n'a plus la force.
On élit des gens pour qu'ils nous apportent des solutions. Ils nous apportent que des problèmes.
Un truc technique stupide comme ça, tu règles ça en 2 minutes. Il y a besoin encore que maintenant ça reparte encore à l'Assemblée avec une nouvelle validation au Sénat.
On va acheter les voitures chinoises là aussi.
Pour que ce soit entériné encore à l'Assemblée.
Alors, les voitures les moins chères.
T'as raison. Entre le temps que le texte revienne, je sais pas combien de temps. Entre temps, Dongfeng aura déjà commencé à faire fabriquer ses voitures par
Stellantis.
Et on aura acheté des voitures chinoises. T'as raison.
Tous les gens vont devoir charger la bagnole, ils vont prendre la moins chère.
Dans un instant, avec les GG, je vous propose de venir discuter avec nous. Alors, ça risque de peut-être vous énerver.
Ah oui.
Ça commence. Du mouvement d'humeur des joueurs de tennis de Roland-Garros, qui estiment qu'ils ne gagnent pas assez, ils ne touchent pas assez d'argent sur le tournoi parisien sur terre battue. La fronde à Roland-Garros. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Parce qu'après tout, ça génère énormément d'argent et ils veulent leur part du gâteau. Ou est-ce que ce sont des caprices de riches? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est midi moins 25. Reste avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Je vous fais part de quelques réactions là qui sont arrivées, quelques messages là sur le WhatsApp et les mails d'RMC. J'ai Michael qui nous dit « C'est quand même la honte ce Conseil constitutionnel. Mon fils est auto-entrepreneur, il a du mal à se sortir un SMIC. Il a une vieille 207 diesel, donc là on est sur Peugeot, qui tourne comme une horloge et il n'a pas les moyens de changer. » Ebourg 93 qui nous dit « Le Conseil constitutionnel n'a rien dit sur les zones ZFE, mais je croyais que c'était un droit constitutionnel. » la liberté de déplacement pour tous. J'ai d'autres réactions. Il y a François qui, lui, s'insurge et qui nous écrit, mais qu'on nous foute la paix. Aujourd'hui, moi, j'ai changé de voiture. Elle consomme beaucoup moins que celle que j'avais il y a 10 ans. Aujourd'hui, les Français, les constructeurs, tout le monde est en train de consommer beaucoup plus propre. Qu'on laisse les Français acheter les voitures. On n'a pas à subir de la contrainte. Il y a Maria qui, elle, s'insurge en disant, le Conseil constitutionnel, maintenant, mêle la Constitution, notre droit de se déplacer, d'avoir une voiture propre ou pas. C'est n'importe quoi.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules avec Mourad Boudjelal, avec aujourd'hui Laura Barton-Martinez et Abel Bouy. On discute, on débat. Vous prenez la parole avec nous au 32-16. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. 10 minutes durant lesquelles je vous propose de parler de Roland Garros. Là aussi, vous voyez, c'est typiquement français, l'affront des joueurs à Roland-Garros. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus d'un an déjà. Mm-hmm. C'est-à-dire que les joueurs ont commencé il y a un an à parler avec la direction de Roland-Garros de la rémunération, du pourcentage qu'ils doivent prendre. Et ils demandent à ce qu'ils soient un peu augmentés. Voilà, ça fait un an qu'ils ont écrit à la direction de Roland-Garros. Et là, ils sont encore, un an après, dans le bras de fer.
Sauf que Roland-Garros démarre. Et donc, ça fait quand même mauvais genre. Donc, on va avoir, parce qu'il y a au moins 20 joueurs, dont quand même les numéros 1 mondiaux, à la fois féminin Sabalenka et masculin Sinner, qui sont dans cette fronde et qui ont d'ailleurs prévu d'écourter leur obligation médiatique pour protester contre la part, selon eux, trop faible des revenus des grands chelems qu'ils perçoivent. Ils perçoivent 15% par exemple à Roland-Garros, alors qu'ils voudraient 22%. Et dans leur argument, parce qu'il faut savoir quand même, Roland-Garros, c'est 395 millions d'euros de revenus en 2025. C'est d'ailleurs un revenu qui ne cesse d'augmenter. C'est le deuxième tournoi du Grand Chelem le plus regardé au monde. Et qui fait le succès de Roland-Garros ? Bah, c'est bien sûr Sinner et Sabalenka et les grands. C'est eux qu'on veut voir et c'est eux qui font les audiences télé, etc. Donc c'est normal que ces gens-là se disent, bah, on offre un spectacle, on veut simplement avoir la part qui nous revient. Le problème, c'est que pour l'instant, la Fédération Française de Tennis n'envisage pas de revoir à la hausse la dotation financière. C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs la directrice Amélie Mauresmo, organisatrice de Roland-Garros. On ne va pas bouger. Donc, on est dans une situation bloquée. Alors, c'est un peu peut-être facile de dire, ah oui, alors c'est les riches qui vont être encore plus riches. Enfin, en même temps, ce sont eux qui font le spectacle.
Non, mais c'est
et
pas...
si Roland-Garros, ça fonctionne, c'est parce que, justement, il y a des champions comme Sinner et Sabalenka.
Eh ben, justement, qu'ils prennent une position courageuse, plutôt que de faire un truc un peu mesquin de, je t'enlève 15% du coût de mon temps médiatique. Bah, viens pas, en fait.
Bah, si elle vient pas, il y a plus Roland Garros.
Mais non, mais si tu veux, si t'estimes,
ça permettra aux Français de gagner. Quoi,
si t'estimes, enfin. Si t'estimes, enfin, moi demain je.
Bah, si tu fais un tournoi avec des mauvaises, personne ne va regarder.
Bah, ouais, peut-être que justement voilà, Roland Garros.
Tu frappes un grand coup, c'est ce que tu veux dire.
Exactement, peut-être que Roland Garros du coup.
Les joueurs à boycotter.
À un moment donné, t'es pas entendu. Enfin, moi j'ai un peu de mal. Je veux dire, moi, quand
elle
je postule.
Joueurs, certains, en fait. Non, mais elle est pour les joueurs, je dis simplement.
Je suis pour les joueurs, mais à un moment donné, faut que tu ailles fort.
Certains ont évoqué. Ils visent le grand chelem.
Non, mais parce que quoi? En fait, ils se chouinent, mais par contre, on veut quand même pas s'asseoir sur entre 87 000 et 1,2 million de revenus. Donc, moi, c'est juste ça.
Non,
moi,
ils ont évoqué le boycott.
Moi, quand on me propose un job, si le salaire me convient pas, bah, je prends pas le job. Non, donc mais, si t'es pas content.
Oui, je comprends. T'es pour la manière forte, quoi.
Bah,
en fait.
T'es pour la manière forte. Tu te soumets, tu te démets.
Je parle sous le contrôle de Mourad. Faut comprendre aussi comment fonctionne le système sportif. Roland Garros, le vainqueur, c'est 2,5 millions de gains. Quand à Wimbledon, l'US Open et c'est lequel le quatrième tournoi. On est entre 4 millions et 5 millions. Oui. Donc déjà, il y a une grosse différence.
Oui, Roland Garros, ils sont moins bien.
Voilà. Et Roland Garros, tu gagnes jusqu'à 5-7 à Wimbledon, non?
Exactement. Donc il y a tout ça. Tu peux pas boycotter un tournoi du Grand Chelem parce qu'au niveau des points pour le classement général, c'est une tannée terrible pour la fin de saison. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en France, on n'a pas l'habitude, mais dans les autres sports, aux États-Unis, les lockouts, il y en a tout le temps, en NBA, en NFL, en NHL. Pourquoi? Souvent, on va dire, ouais, mais ces joueurs, ils sont millionnaires, ils ont casse-terre. Un joueur qui gagne 50 millions par an, ça veut dire que le système pour lequel il travaille, il gagne
beaucoup
20 fois plus, peut-être 50 fois plus. Donc le joueur, il se dit, même si les sommes sont gigantesques, effectivement, qu'on ne gagnera jamais, il se dit quand même, malgré ses 50 millions par an, je ne veux pas être le dindon de la farce parce que vous, vous prenez 30 fois plus que moi. C'est juste ça, en fait. Et ça serait la même chose pour la personne qui gagne 1000 euros par mois et qui est exploitée par quelqu'un qui gagne, par exemple, 100 000 euros.
Mais moi, c'est pas une question d'argent.
C'est exactement la même chose.
C'est pas une question. Qui gagne. Enfin, moi, par exemple, je fais partie des gens qui ne sont absolument pas choqués de ce que gagne un joueur de foot. C'est pas moi qui les donne, hein, c'est pas moi qui les paye. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu vois que le truc, ça fait un an que ça dure, que ça bouge pas, bah, tu fais un boycott. Tu fais un boycott, ou alors t'arrives, tu
quand pas le
d'un tournoi du
parce
grand
que, au-delà de l'argent, il y a aussi, ce sont des compétiteurs. Un joueur de tennis, il va dans sa vie disputer 7-8 Roland Garros, il aurait peut-être une chance de le gagner. Parce que c'est par rapport à la maturité, par rapport à la jeunesse. Et donc, ce sont quand même des compétiteurs
par rapport qui peuvent avoir
son physique, peuvent avoir un palmarès. Et Roland Garros, c'est un rendez-vous incontournable dans la carrière d'un tennisman.
Ouais, bah, c'est incontournable aussi
pour certains tennismans qui vont remonter au classement ATP. C'est important aussi. Donc,
oui,
ils peuvent pas. C'est comme le Tour de France. Un cycliste qui a de l'ambition.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de Roland Garros? Parce que là, ils essaient de dealer un truc aux alentours des 9-10%, là où les autres, ils réclament plus de 15. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, Mourad?
Je pense que Roland Garros a besoin des médias, a besoin des partenaires. Et moi, ce que je pense, c'est ce qu'il faut boycotter, c'est toute la présence partenaire pour les joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, le partenariat, c'est être une manne énorme pour Roland Garros et dire, OK, les partenaires, c'est avec vous, c'est avec le tournoi, c'est pas avec nous. Donc nous, on ne participera à aucune opération de partenariat.
Exactement.
Et on ne participera à aucune opération de presse.
Aucune opération
puisque la presse et les médias, ça aide le partenariat, puisque ça donne un éclairage sur le tournoi.
Ah, d'accord,
tournoi.
Ok, j'avais pas compris.
Après, moi, je suis d'accord avec les joueurs. C'est quand même eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui ont tapé dans une raquette.
Oui.
Ils doivent s'entretenir physiquement comme des malades parce que c'est un sport très dur, le tennis. C'est eux qui créent le spectacle.
Ah, mais bien sûr.
Et moi, j'ai dit que ceux qui créent le spectacle doivent être mieux rémunérés que ceux qui
alors, tu sais pourquoi Amélie Mauresmo dit non? Parce que dans le système
Roland-Garros.
Non, c'est pas ça. C'est que dans le système Roland-Garros, on réserve une part aux joueurs qui ont peu de chances d'aller très loin pour les aider, en fait. C'est un peu la redistribution.
C'est un peu
la redistribution à la française.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on prend un peu à ceux qui ont beaucoup et on donne à ceux qui ne vont pas aller
justement,
très loin.
Justement, il y a Joël qui va en parler avec nous. Joël, il est au comité directeur de la Ligue Grand Est de tennis. Bonjour Joël.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Roland-Garros alors, dites-moi?
D'abord, je veux juste faire une petite précision. En fait, c'est l'événement qui est important, c'est Roland-Garros. En fait, il n'y aura pas de champion sans Wimbledon, sans Roland, sans Plushing. Voilà, les carrières se font au titre des grands chelems.
Tout à fait. Pour
ce qui est de la Fédération française de tennis, c'est effectivement un peu un cas particulier parce que ce n'est pas une société privée, contrairement aux autres grands chelems. C'est un modèle redistributif, mais qui n'est pas que pour les joueurs, qui est pour l'ensemble de l'écosystème du tennis français.
Avec aujourd'hui, les amateurs.
Parce qu'il y a pas, c'est pas comme au foot, il y a pas de société professionnelle et de société amateur. C'est Roland Garros .barre. Cet événement appartient aux licenciés, d'une manière ou d'une autre. Et la redistribution, elle se fait pas seulement chez les joueurs, ni effectivement chez les salariés de l'épreuve, elle se fait sur l'ensemble du territoire. Si demain on peut donner 1 million par région pour l'investissement du sport que vous appelez amateur, c'est bien parce qu'à Roland. Vous parlez du montant du prize money, il y a de ça, depuis que je suis dirigeant, j'ai toujours connu des fraudes au WCT. C'était une société organisée par Lamarone. C'est un milliardaire texan qui avait créé un circuit parallèle. Il a duré 4 ans. Tous les joueurs ont boycotté le modèle fédéral, sont allés jouer chez lui. Et au bout de 3 ans, le modèle fédéral...
Mais c'est quand même les stars qui font le succès de Roland Garros. C'est 395 millions d'euros.
C'est l'exploitation de l'homme par l'homme en
verlan. C'est quand même c'est plutôt similaire à la Benka que des obscurs joueurs, excusez-moi.
Pour tous ces joueurs-là, Roland Garros, c'est un goal à atteindre, c'est un endroit où ils veulent être. Donc je suis désolé, moi je suis assez d'accord. Moi je trouve que c'est quand même super bien que justement il y ait de l'argent qui soit redistribué.
C'est pas l'argent, c'est l'argent de ceux qui...
Mais à un moment donné, si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas.
C'est le principe de restreamer l'argent qui n'est pas le tien.
Allez-y,
ce que je voulais vous dire, c'est à part Borg, dont tout le monde peut se souvenir, Noah en 83 et Nadal qui l'a gagné 14 fois, pouvez-vous me dire qui a gagné Roland Garros il y a 20 ans?
Il y a eu Jimmy Connors, il y a eu Ivan Lendl,
Agassi,
Mats Wilander,
il y a 30 ans.
Mais moi, je peux vous dire que je suis pas d'accord avec vous. Souvent, les
excuses
qu'une fédération se gave, c'est l'excuse, c'est la redistribution.
Oui, oui, oui.
Voilà, mais c'est la redistribution très large alors, c'est-à-dire que la fédération est inclue dans la redistribution. Et moi, je peux vous dire que aujourd'hui, je trouve tout à fait normal que des joueurs de ce niveau-là, ils n'ont pas à être impliqués dans votre système de redistribution, parce qu'en plus, j'imagine que à la fédération, pendant Roland Garros, c'est la fête au village, c'est la bamboula, on en profite bien. Et là, on est, et puis que quand on est à 3 grammes, on dit non, non, mais c'est de la redistribution. Allez-y, Joël, allez-y.
Vous confondez avec la Fédération française de rugby et
pas du tout, mais pour
ce qui est de la Fédération française de rugby, je vous garantis qu'il y a un paquet de salariés qui profitent effectivement dans leur contrat de travail du bénéfice que dégage Roland. Et si ce bénéfice n'était pas dégagé à cette somme-là, il y aura peut-être moins de salariés.
Oui, mais ce bénéfice, ce sont les stars qui le font, c'est ça. Donc elles ont quand même leur mot à dire.
Roland Garros qui le fait, arrêtez de parler de stars.
Mais c'est comme tout événement.
Il y a des cours vides par moment et des cours pleins en fonction de qui est sur le
plateau. Alors on a posé la question, est-ce que Joël, est-ce qu'on voit un peu la perception qu'en ont les auditeurs, la fronde des joueurs contre la baisse de leur dotation, est-ce que c'est un caprice de riches, est-ce qu'ils ont raison de demander des augmentations? Vous dites oui, c'est un caprice de riches.
En France, on n'aime pas les riches.
De 80. Après,
il y a plus de gens qui perçoivent de la redistribution que de gens qui sont là-haut pour redistribuer.
Après de 80. 10%. Le débat va continuer sur RMC, RMC Story. On va accueillir Estelle pour Estelle Midi, soleil, Estelle soleil. Denis. Bonjour Estelle.
Salut Alain Marchal, salut les GG. Vous êtes déjà en maillot, vous?
J'ai déjà mis ma tenue. Il y a le match ce soir, il y a la finale.
Oui, alors attends, où est Fred Hermel?
Fred Hermel, il est déjà parti au stade.
Il a peur, mais... Alors, dans un instant, nous, on va parler de Marine Le Pen qui réclame la retraite à 62 ans. D'accord, pas d'accord avec la chef de file du RN, mais écoutez, on en débat dans un instant au 32-16. On parlera également football 19 jours avant la Coupe du Monde. Bah ouais, il n'y avait pas que Nice-Lance en foot. 19 jours avant la Coupe du Monde, il y a des fan zones sans alcool. Est-ce que vous trouvez ça ridicule ou génial? Là encore, on en parlera avec vous à 10h30. Jusqu'à 36 degrés week-end. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous réjouit? Ça, on en parlera.
On commence à s'inquiéter.
À 13h30, ouais.
peut-être.
On n'a même pas bu un verre de rosé qu'il faut déjà s'inquiéter.
Vous savez que c'est le pont de la Pentecôte. Qui travaille lundi?
Nous, les GG, on sera là en direct.
Nous aussi, on sera en direct. Personne ne comprend rien à la Pentecôte.
Merci Jean-Pierre.
Il y a des gens qui font le pont, il y en a d'autres qui bossent, les écoles sont fermées.
Et ça s'appelle la France, madame.
Oui, mais je suis au courant.
Et pas n'importe laquelle.
Faut-il remettre tout le monde au travail le lundi?
La France de Sébastien Lecornu.
Voilà. Faut-il remettre tout le monde au travail le lundi de la Pentecôte? C'est la question qu'on vous posera à 14h. Dites-nous si vous faites le pont ou pas. Et puis, allez, c'est un tu préfères, c'est pour vous.
Ou pas. C'est quoi?
Salade César ou salade Nice?
Niçoise.
La Niçoise.
C'est quoi la recette de la Niçoise?
Non.
À quoi?
Laisse tomber. Là, je ne peux plus répondre à quoi que ce soit.
Bon, en tout cas,
je suis dans le match là.
Focalisé. Dans mon match.
À quelle heure?
À 21h. 21h, je vais retrouver mes potes niçois. Là, on va tous filer au Stade de France.
Vous
on va
y aller dès maintenant,
je pense. On va faire le tour du stade avec des incantations. On va faire ce qu'il faut. On va prier Santa Rita.
T'appelles les druides.
Exactement.
Et moi, j'ai une petite surprise pour vous.
Laquelle, ma chère?
Écoutez, c'est une surprise en chair et en os. Voilà. Qui souhaitait absolument.
C'était con.
Vous adresser un petit message pour ce soir, Fred Hermel.
Ben le voilà, Fred Hermel.
C'était le charbon. Moi, la salade niçoise, je la mange.
40 000 ce soir face à 10 000 niçois. 40 avec un stade et une France qui sera trop lente.
Oui.
Parce que c'est justement pour ça que j'espère que. Les amis, on va créer la... Allez, Chichou, il faut qu'on crée la surprise ce soir. Issadis, ce soir. On y sera. Tu y es aussi?
Ah, bien sûr.
On sera au stade ensemble, Fred et moi. Parce que pendant 90 minutes ou plus,
Fred,
on va pas se parler.
Il vous boudine un peu ce maillot, non, maintenant?
Mais c'est un mec qu'il avait à 17 ans.
Non. C'est parce que j'ai cassé le sponsor.
Ah,
on n'a pas le droit. Donc ça me boudine.
C'est pas RMC.
Cette déontologie vous honore.
Ah, que veux-tu?
Ce soir, match Nord-Sud, Lens-Nord. Nice, regardez.
Bonne chance.
Voyez,
bonne chance.
On peut faire un match sans se foutre sur la gueule quand même.
Ah, oui, ouais.
Alors les cons hors du stade.
Ouais, toute la semaine, on a eu droit à Nice-Lens à la rédac. En tout cas, voilà. Le Niçois Alain Marchal face au Lensois Fred Hermel. Faites vos jeux. Le match, c'est ce soir. J'ai envie de vous dire. Bonne
c'est quoi
chance
ton...
à tous
Alors,
les deux.
Prono, c'est quoi nos moines?
C'est vite. Facile.
Moi, je pense que ça va être Lens.
Lens, Olivier.
Lens 3-0.
Ouais, j'allais dire 4-0, moi.
Laura, elle s'est tournée.
2-1 pour Lens, même si j'aimerais une victoire de Nice.
Eh bien, moi, je vous dis, c'est Nice qui va gagner, parce que c'est le match de leur année, ils n'ont que ça.
C'est bien, parce que c'est des jours où on compte ses amis.
Bon match à Nice sur RMC, bien sûr.
Estelle Midi dans un instant. Nice à la mer.